de grains de sable. Pensée globale. Une émission proposée par l'association Atacrone. Agir local. Le grain de sable.
Donc le sujet de ce soir, c'est Négawatt. Alors, pourquoi on a choisi ce sujet? Donc, c'est un sujet important et plutôt d'actualité. Il y a eu encore, il y a quelques mois, l'accident nucléaire au Japon. À court terme, on voit tous le prix des énergies qui flambe. Et à plus long terme, c'est vrai, ou à moyen terme même, on parle de la fin des énergies fossiles. On se pose des questions sur les choix énergétiques au plan national. Est-ce qu'il faut sortir du nucléaire ou pas? On voit d'ailleurs que c'est des sujets très polémiques et qui provoquent des réactions épidermiques. Et voilà, donc c'est un tableau souvent sombre. Et l'association Négawatt a une démarche assez positive, fait des propositions. Donc c'est des gens qui travaillent sur un scénario et c'est plutôt constructif et positif. Donc voilà, donc on va en savoir un petit peu plus ce soir sur Négawatt.
Alors ce soir, on reçoit en studio deux invités. Donc on a Yann Crévolin qui travaille dans une association de Lyon, un point info énergie, qui va nous parler un peu du contexte et puis nous présenter l'association. Et ensuite, on reçoit Sylvain Godineau qui est un des membres fondateurs de la compagnie des Négawatts. Donc je laisse la parole à Yann, bonjour.
Bonjour, merci. Donc effectivement aujourd'hui on va être amené à parler d'un scénario de transition énergétique qui s'appelle donc Négawatt, néga comme négation, qui va un peu à l'inverse d'une tendance actuelle qu'on pourrait appeler des mégawatts, où on installe deux plus en plus de puissance électrique, de plus en plus de puissance de chauffage face à une tendance qui est effectivement à l'augmentation globale des consommations énergétiques.
Donc voilà, le négawatt, c'est celui qu'on ne consomme pas en fait.
Voilà, et tout à fait. Le négawatt, ça va être l'énergie qu'on ne va pas économiser, et qu'on ne va pas consommer. Et on entend souvent dire effectivement que l'énergie la moins chère, c'est celle qu'on ne consomme pas. Donc effectivement, ça s'inscrit dans un contexte en ce moment où l'énergie revient sur le premier plan médiatique. Alors tout d'abord, il y a effectivement un événement notable qui est effectivement le pic pétrolier. Depuis peu, l'Agence internationale de l'énergie nous annonce que le pic pétrolier, le pic des énergies fossiles conventionnelles, hein, donc le pétrole facile à extraire, a été atteint lors de la précédente décennie, aux alentours de 2008. Donc ça, c'est un...
Oui, il y a des grands débats d'experts, justement. Est-ce qu'on a passé le pic, quand elle pique.
Voilà, depuis très longtemps, en fait, la question du pic pétrole est dans le débat et c'est un sujet assez vif. Et pour la première fois, l'Agence internationale de l'énergie dit le pic existe réellement. Jusqu'ici, ça a toujours été un peu un point dur. L'Agence internationale disait oui, non, on pourra continuer à augmenter les consommations. Et là, pour la première fois, dans leur rapport qui s'appelle le World Energy Outlook, ils annoncent le pic aurait été passé. Et aujourd'hui, l'ensemble même des sociétés pétrolières disent effectivement, on va avoir du mal à accroître les productions fossiles. À côté de ça, on a effectivement la question du nucléaire qui revient en force sur le premier plan médiatique suite à l'incident de Fukushima. Beaucoup de pays se posent la question, est-ce que, y compris le Japon, est-ce qu'on va continuer dans le développement du nucléaire? Si oui, quid de la sécurité? Quelles alternatives on peut trouver au nucléaire à long terme? Est-ce que c'est même une énergie durable ou est-ce que c'est une énergie de transition? Et si oui, pourquoi passer par cette énergie de transition? Donc voilà, on voit bien que c'est que la question à la fois sur les énergies fossiles et sur le nucléaire soulève énormément de débats et va être effectivement un point dur, y compris lors de la campagne présidentielle. On l'a déjà vu lors des dernières semaines. Voilà, il y a eu quelques échanges assez vifs où on voyait effectivement tout le monde dire tout et n'importe quoi, avec d'un côté effectivement sortir du nucléaire, c'est revenir à la bougie, c'est faire exploser la facture des Français. De l'autre côté, on entendait dire oui, mais si c'est possible, il y a pas de souci. Et finalement, au milieu, personne ne sait trop rien sur comment faire.
Oui, du coup, on entend des arguments assez simplistes des deux. Enfin, on a l'impression des deux côtés. Et c'est vrai que du coup, le scénario négawatt, On rentre un peu plus dans le concret. Et c'est vrai que c'est quelque chose d'argumenté.
Voilà.
Donc je sais pas, on en a pas parlé, mais l'association Négawatt.
Alors l'association Négawatt, je peux effectivement la présenter en attendant que Sylvain arrive. Donc l'association Négawatt, elle propose donc un scénario technique qui vise à démontrer la faisabilité de la transition énergétique d'un modèle des énergies fossiles et en France en particulièrement du nucléaire vers un modèle de sortie du nucléaire et également de sortie des énergies fossiles, de sortie pas tout à fait complète. Il y a encore des postes sur lesquels on ne pourra pas effectivement sortir des énergies fossiles, où on devra quand même en consommer encore un petit peu, et un scénario également de réduction drastique des émissions de gaz à effet de serre. On n'en a pas parlé, c'est vrai que c'est un peu moins présent en ce moment dans le débat, mais il y a la contrainte climatique qui est extrêmement forte, où on sait qu'il faudra réduire drastiquement les émissions de gaz à effet de serre en moins de 40 ans. Le scénario Négawatt propose une approche, propose un ensemble de solutions qui permettent de réduire d'un facteur 16 les émissions de gaz à effet de serre en 2050. Donc ça, c'est un scénario qui a été élaboré par des ingénieurs qui sont tous issus du domaine de l'énergie, que ce soit à la fois des architectes, des ingénieurs du bâtiment, des ingénieurs qui sont spécialisés dans les transports, des urbanistes, qui ont travaillé donc sur ce scénario. Il y a une première version du scénario qui est sortie en 2003. Qui a été actualisé en 2006. Et là, ils nous ressortent en 2011 un nouveau scénario qui a été affiné sur de nombreux points et qui aujourd'hui, à ce jour, est un des scénarios, on va dire, les plus avancés en matière de transition énergétique vers un modèle qui utilise beaucoup plus d'énergie renouvelable, d'économie d'énergie et de sobriété.
D'accord. Les buts de l'association, donc, c'est à la fois de développer ce scénario et ensuite c'est d'agir vers les politiques.
Alors le but de l'association, alors en fait on a parlé que de l'association, on pourra parler d'autres choses après. L'association effectivement c'est de porter le scénario Négawatt devant les politiques et également faire connaître aux citoyens qu'il y a des alternatives qui sont techniquement valables. Hein, c'est un scénario vraiment, j'insiste là-dessus, qui se veut technique, qui démontre la faisabilité technique. Donc il y a effectivement ce message et qui aussi dans les échéances. Le scénario a été vraiment travaillé dans les dernières minutes en force pour essayer d'être finalisé avant les échéances électorales. Il y aura d'ailleurs un livre qui paraîtra, qui détaillera un petit peu mieux les solutions, la mise en œuvre des solutions, qui paraîtra en janvier, me semble-t-il. Et à côté de ça, effectivement, Négawatt travaille dans la mise en œuvre des solutions. Ils ont fondé un institut de formation qui s'appelle l'Institut Négawatt, qui forme les professionnels du bâtiment à la rénovation énergétique, aux énergies renouvelables, que ce soit le solaire thermique, le photovoltaïque, la pompe à chaleur, voilà, qui amorce la transition en formant les professionnels qui travailleront demain sur ce projet.
On se moque du tir comme du car. Le monde se fout du monde car. Si l'on s'arrête 5 minutes, on voit sous la cocotte minute. Le feu affrontera la pression, la fin tenant à un bouton, sur le fil de la dissuasion, encore une belle idée béton, on fait pousser des champignons, dans les caves de l'oncle Dom Tom. Gentil, gentil, les autochtones, vous reprendrez bien un bout d'atome. Où va-t-on, papa? Je ne sais pas, mais on y va. Que tu descends dans nos mamans pour être aussi condescendant. Où va-t-on, papa? Je ne sais pas, mais on y va. Et comme dit mon tonton, plus on est de con, plus ça se voit. Qu'un petit crime se commette là-bas à l'ombre d'une comète, parce qu'une bande de Vénusiens dans un ballon sont venus aux mains. Et aussi sec, notre petite planète est au jour au courant du fait. Par la lorgnette, des caméras prêtes à mater tous les coups bas. Tandis qu'en bas de chez toi, de chez vous, de chez nous, de chez moi, quelqu'un tout seul de faim, de froid, est mort en se bouffant les doigts.
Ah, Alors, nous revoilà en studio. Donc, maintenant, ce qu'on va pouvoir se demander, c'est l'énergie. De quelle énergie on parle exactement ? Parce qu'on peut penser juste transport ou seulement électricité. Alors, de quoi parle-t-on ?
Alors, déjà, en fait, il faut peut-être remettre les choses à l'endroit. C'est-à-dire que les gens de Négawatt ne se posent pas la question sous la forme « Bon, comment on fait pour remplacer tout le nucléaire ?» Et toutes les centrales à gaz, toutes les centrales à pétrole, comment on fait pour remplacer l'essence? Ils se posent pas cette question sous cet angle-là, ils se posent la question sous l'angle des besoins. Quels sont nos besoins? Donc on a des besoins de transport, on a des besoins de chaleur et on a des besoins d'électricité spécifique. Grosso modo, c'est trois besoins primaires. Et ensuite, ils regardent quel est le moyen le plus efficace de produire cette énergie et quels sont les systèmes de production qui le feront à moindre impact. Donc effectivement, le scénario s'appuie sur un triptyque, sobriété, efficacité, renouvelable, qui est bien où l'ordre est important, c'est-à-dire où on va effectivement d'abord travailler sur la sobriété énergétique, c'est-à-dire tant qu'on n'aura pas effectivement réfréné une certaine tendance à l'augmentation des dérives de consommation, et qu'on n'aura pas effectivement essayé de réguler certains petits dérives de comportement, par exemple à prendre dans le logement, est-ce que se chauffer à 23 degrés, est-ce qu'on en a besoin, est-ce que on peut pas se contenter de 19 qui est la température réglementaire par ailleurs. Il y a sur la question de la sobriété, il y a également celle des déplacements qui va rentrer en ligne de compte, hein, c'est-à-dire le voyage que je vais faire tous les ans au Canada ou en Australie. Il y a aussi la question de la sobriété. Est-ce que dans mes modes de transport, dans le tourisme, est-ce que j'ai pas des choses à aller voir un peu moins loin ou un peu moins souvent aller loin, voilà.
Ou en changeant de transport, est-ce que je peux remplacer la voiture par... si c'est 200 mètres, elle marche à pied, ou peut-être le vélo, ou peut-être le train.
Alors là, on commence à rentrer dans la question de l'efficacité. Quelle est la façon la plus efficace de se déplacer? L'avion, c'est aujourd'hui le mode de transport qui a les consommations énergétiques les plus importantes par passager. Et effectivement, après, on a des systèmes de transport qui sont bien plus efficaces. On va avoir effectivement tout ce qui va être transport type train, transport en commun, où on a des consommations énergétiques par passager qui sont plus faibles. Et on va également travailler sur, par exemple, le modèle de la voiture individuelle. Alors, c'est à la fois une question de sobriété et d'efficacité. Qu'est-ce qui est le plus sobre et efficace? Est-ce que c'est le Porsche Cayenne qui va faire ses 2,5 tonnes pour déplacer 50 kilos de viande? Ou est-ce que ça va être une petite voiture qui va faire 400 kilos et qui va être dimensionnée pour transporter 2 à 3 personnes, hein, sachant qu'aujourd'hui le taux de remplissage des véhicules il dépasse rarement 2 personnes. Je crois qu'en moyenne ça doit être autour de 1,5, quelque chose comme ça. Donc il y a cette question effectivement de sobriété et d'efficacité, trouver les appareils les plus efficaces. On peut également prendre l'exemple de l'éclairage, où on a des solutions d'éclairage qui permettent de réduire de manière drastique les consommations. On peut parler des lampes fluo compactes qui viennent remplacer tout ce qui va être lampe à incandescence ou lampe halogène. Il y a le remplacement de tout ce qui est appareil électroménager.
Donc l'efficacité, c'est à même confort, mais j'utilise une technique qui me fait moins consommer, en fait.
Tout à fait. Le scénario Négawatt est un scénario où on cherche à répondre aux mêmes besoins, hein. C'est-à-dire qu'on va pas venir dire aux gens, demain c'est fini déplacer, restez chez vous, hein, ou mangez que des patates. Non, c'est pas ça. On essaie de répondre aux mêmes besoins. En revanche, on va effectivement le faire avec mesure et avec les meilleures technologies disponibles. Et alors ça, c'est un point qui est aussi important, je pense, de souligner dans le scénario Négawatt. C'est que contrairement à un ensemble, à d'autres scénarios qui, par exemple, vous avez des scénarios pro-nucléaires qui vont miser sur tout ce qui va être réacteur à neutrons rapides. un type réacteur de Cresmalville, qui aujourd'hui sont des technologies qui sont pas tout à fait éprouvées, sur lesquelles on a encore peu de recul. Le scénario Negawatt, lui, se base sur les meilleures technologies qui sont mises en œuvre aujourd'hui. Il ne se base sur aucune rupture technologique, d'accord ? Il y a pas grand-chose qui va changer dans les technologies qui seront employées en 2050. Si il y a effectivement dans 20 ans, on trouve une solution miracle pour économiser l'énergie ou la produire, tant mieux, ce sera bonus.
Jour.
Mais on peut pas se permettre de raisonner, d'attendre ça.
Parce là, c'est avec des solutions éprouvées qui existent déjà, industrielles, et qu'on pourrait mettre en place.
Tout à fait. Et donc, la dernière phase du triptyque sobriété, efficacité et renouvelable, c'est la mise en place d'énergies renouvelables de façon massive. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a réussi à réduire nos consommations, il commence seulement à devenir intéressant d'utiliser les énergies renouvelables. Et donc, par énergie renouvelable, on va entendre effectivement ce dont on entend beaucoup parler, le photovoltaïque, l'éolien, qui suscite beaucoup de débats, mais c'est également la biomasse, à la fois le bois qu'on va utiliser dans des chaufferies,
le chauffage au bois,
mais pas le chauffage au bois bûche dans les cheminées qui lui est peu efficace, ça va être dans du chauffage dans les chaufferies automatiques qui ont des bons rendements.
Peut-être des réseaux de chaleur.
Des réseaux de chaleur, effectivement, le développement des réseaux de chaleur en utilisant par exemple l'incinération des déchets, la valorisation de cette chaleur, la valorisation de la chaleur des eaux usées par exemple, toutes les eaux usées qu'on va retrouver dans les réseaux d'évacuation, il y a de la chaleur qui peut être valorisée. C'est également tout ce qui va être méthane, toute la production, tous les déchets,
tout ce qui est biogaz et choses comme ça.
Voilà, tout ce qui va être les déchets issus de l'industrie agroalimentaire, on peut les valoriser pour en produire du biogaz qu'on peut ensuite injecter dans les réseaux de gaz de ville.
Et qu'en est-il de l'hydraulique ?
Alors l'hydraulique, là il y a des perspectives de développement qui sont relativement mineures, d'après le scénario, dans la mesure où aujourd'hui on n'a plus de capacité pour faire des gros barrages.
Tous les gros barrages ont été faits, je pense déjà.
Tous les gros barrages en France, tous les gros barrages ont à peu près été faits. S'il y a du développement de l'hydraulique, ce sera de la mini ou de la micro hydraulique.
Ou par exemple les choses qui fonctionnent sur la houle ou les. Ça c'est encore prototype ou ça.
Aujourd'hui, effectivement, le scénario prévoit la montée en puissance de ce système. Il y a aujourd'hui des usines marémotrices, il y a celle de la Rance, c'est des choses qui existent, mais sur lesquelles, effectivement, on ne s'attend pas à des miracles, et donc elles ont une part qui n'est pas extrêmement importante dans le scénario. Par contre, il y a une chose qui est relativement intéressante, c'est qu'aujourd'hui, les barrages commencent à avoir un certain âge, ça fait à peu près un siècle qu'on construit des barrages, on va commencer à amorcer la rénovation de ces barrages, l'amélioration du rendement énergétique des turbines, donc on va pouvoir gagner en efficacité un petit peu sur ces systèmes.
D'accord. Et tout à l'heure, tu as parlé d'électricité spécifique. Est-ce que tu peux nous expliquer ça ?
Alors oui, l'électricité spécifique, ce qui est appelé par les négawatts, l'électricité spécifique, ça va être toute l'électricité qu'on ne va pas utiliser pour se chauffer. C'est l'électricité qu'on va utiliser, par exemple, pour la télévision, pour la radio, etc., etc.
Qu'on peut pas remplacer par autre chose que l'électricité en fait dans ces usages-là.
Exactement, c'est de l'électricité qu'on ne peut pas substituer. Sur le chauffage électrique par exemple, on peut substituer par un autre type de chauffage qui soit plus efficace. Mais par contre, effectivement, pour faire fonctionner une radio, on aura toujours besoin d'électricité. Donc il faudra quand même en produire encore un petit peu.
Alors bon, on en a un petit peu parlé des différents domaines. Ce qui est vrai, c'est ce que tu nous disais, c'est que le scénario Negawatt, il aborde plusieurs domaines. C'est-à-dire que là, c'est vrai que l'énergie dans le bâtiment, on en parle souvent. Ça peut être aussi les transports, l'urbanisme, peut-être repenser la ville à une autre échelle.
Alors je vois Sylvain qui arrive, Sylvain de
direct.
La compagnie des Negawatt. On va attendre qu'il s'installe.
Mon oncle, infâme bricoleur, faisait en amateur des bombes atomiques. Sans avoir jamais rien appris, c'était un vrai génie, question travaux pratiques. Il s'enfermait toute la journée au fond de son atelier pour faire ses expériences. Et le soir, il rentrait chez nous et nous mettait en transe en nous racontant tout. Pour fabriquer une bombe. Mes enfants, croyez-moi, c'est vraiment de la tarte. La question du détonateur se résout en un quart d'heure, c'est de celle qu'on écarte. En ce qui concerne la bombache, c'est pas beaucoup plus vache, mais une chose me tourmente, c'est que celle de ma fabrication n'ont qu'un rayon d'action de 3,50 m. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Il a bossé pendant des jours, tâchant avec amour d'améliorer le modèle. Quand il déjeunait avec nous, il dévorait d'un coup sa soupe au vermicelle. On voyait à son air féroce qu'il tombait sur un os, mais on n'osait rien dire. Et puis un soir pendant le repas, la tonton qui soupire et qui s'écrie comme ça. À mesure que je deviens vieux, je m'en aperçois mieux, j'ai le cerveau qui flanche. Soyons sérieux, disons le mot, c'est même plus un cerveau, c'est comme de la sauce blanche. Voilà des mois et des années que j'essaye d'augmenter la portée de ma bombe. Et je ne me suis pas rendu compte que la seule chose qui compte, c'est l'endroit où ce qu'elle tombe. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Sachant proche le résultat, tous les grands chefs d'État lui ont rendu visite. Il les reçut et s'excusa de ce que sa cagna était aussi petite. Mais sitôt qu'ils sont tous entrés, il les a enfermés en disant « Soyez sages ». Et quand la bombe a explosé, de tous ces personnages, il n'est plus rien resté. Tonton, devant ce résultat, ne se dégonfla pas et joua les andouilles. Au tribunal, on l'a traîné et devant les jurés, le voilà qui bafouille. Messieurs, c'est un hasard affreux, mais je jure devant Dieu, quand mon âme et conscience, en détruisant tous ces tordus, je suis bien convaincu d'avoir servi la France. On était dans l'embarras, alors on le condamna et puis on l'amnistia. Et le pays reconnaissant les luttes immédiatement, chef du gouvernement.
C'était Boris Vian. Alors, Sylvain est arrivé en studio, donc tu es membre fondateur de Négawatt.
Je suis membre de la compagnie des Négawatt, oui, qui est en gros un peu le conseil d'administration, donc le noyau dur de l'association.
D'accord. Alors, on parlait de ville, il me semble, avant la chanson. Au niveau de l'urbanisme, qu'implique le scénario exactement ?
Alors, l'urbanisme, c'est compliqué parce que c'est quelque chose qui est très structurant sur les consommations d'énergie. C'est-à-dire que selon qu'on est dans une ville des courtes distances ou dans une ville très étalée, on est obligé ou on n'est pas obligé d'avoir besoin, notamment de la voiture individuelle, qui est un gros facteur de consommation. Donc, en fait, on a plusieurs modèles d'urbanisme possibles. Il y a le modèle dont on essaie de sortir, là, le modèle des Trente Glorieuses, qui est un peu le rêve du pavillon individuel, plus la voiture, voilà, le chien dans la cour, les deux enfants. Donc ça, c'est un modèle qui est extrêmement consommateur d'espace. Hein, ça consomme énormément de terres agricoles parce que c'est quand même beaucoup là-dessus qu'on gagne.
Et puis de transport, de
voilà,
de
ça consomme
monde.
plein d'énergie à la fois pour les déplacements, la voiture, et puis pour la maison, puisqu'une maison consomme pratiquement toujours plus qu'un appartement de la même surface. Donc c'est un peu de ça dont on essaie de sortir. Alors il y a plusieurs modèles de villes durables selon la taille de la ville, hein. Bien sûr, il n'est pas question de faire des quartiers des pentes de la Croix-Rousse dans toute la France. Enfin, là, on est quand même dans un quartier qui a une densité absolument exceptionnelle en France et en Europe. C'est bon, d'ailleurs, il y a plus d'espace vert, il y a plus que des immeubles. Hein. C'est quand même très très dense. C'est sympa, mais c'est très dense. Donc il y a des modèles intermédiaires, hein, notamment du petit collectif qu'on voit se développer dans pas mal de pays d'Europe, y compris en France. On commence à faire des immeubles de quelques étages où on va être une dizaine de logements, avec éventuellement chacun son entrée individuelle, avec éventuellement un petit bout de jardin. Donc faut pas caricaturer. Il y a toutes les formes de villes possibles et évidemment plus on va vers une ville dense, plus les consommations d'énergie vont avoir tendance à diminuer parce que on va gagner sur les consos des bâtiments et puis on va aussi gagner sur les transports en ayant la possibilité de faire des transports en commun, donc du bus dans les zones pas très denses et puis ensuite dans les très gros centres-villes du transport en commun électrique de type métro, tramway ou trolleybus.
Peut-être d'avoir des villes mixtes aussi, on a des activités à la fois du résidentiel et...
Oui, alors ça c'est aussi une chose importante effectivement, c'est la mixité fonctionnelle de la ville, c'est-à-dire on va essayer de vivre sur les lieux de travail aussi, on va essayer de pas avoir l'obligation de traverser toute la ville pour aller se rendre sur son lieu de travail. Alors ça, c'était difficile à une période où on était dans des activités très très agricoles et industrielles, parce qu'il y a quand même des nuisances sonores, qualité de l'air, etc. Maintenant qu'on est sur des activités très tertiarisées, bon, bah, avoir son bureau en centre-ville, c'est pas très difficile. Donc il y a une possibilité de bien mélanger tout ça. Donc voilà, donc sur l'urbanisme, une des mesures fortes du scénario Négawatt, c'est d'essayer de limiter l'étalement urbain. Et puis une autre mesure forte, je ne sais pas si vous avez déjà évoqué ça dans les logements, c'est de limiter la décohabitation aussi. Donc c'est de faire en sorte qu'on ait dans une même maison éventuellement plusieurs générations quand les enfants sont partis de la maison des parents, accueillir un étudiant par exemple en location dans une chambre indépendante ou ce genre de choses, parce que on a une tendance à la hausse des surfaces consommées par habitant, on va dire, de logements, hein, et ça c'est très déterminant dans les scénarios énergétiques.
Et puis à l'inverse, ça permet aussi de régler le problème des étudiants qui n'arrivent pas à se loger dans les villes où ça devient de plus en plus cher.
Voilà, donc nous on y voit d'un côté, on a notre regard énergétique, mais évidemment, il y a un aspect très intéressant sur la crise du logement en France, qui est de... Il y a une tendance lourde à la décohabitation, c'est-à-dire que les ménages ont tendance à divorcer, les gens ont tendance à vivre plus vieux, donc ça fait qu'on a de plus en plus de ménages de une personne, et ces ménages-là ont besoin de se loger, donc si on arrive à réintroduire des étudiants ou d'autres personnes dans des... Ça peut être de la colocation, hein, ça peut être aussi des personnes âgées qui vivent ensemble à plusieurs pour s'entraider, enfin il y a plein de modèles possibles, mais puis il y a un aspect lien social aussi en plus du problème de la crise du logement qui est quand même important aussi, c'est qu'on est de plus en plus seul dans notre société et ça permet de refaire du lien social.
Et alors le scénario Négawatt effectivement s'appuie sur beaucoup de mesures techniques, là on touche plutôt à un volet social. Dans l'opérationnel, comment mettre amorcer ces changements de société quand même, puisque là la question n'est plus tellement technique.
Oui, il n'y a pas que de la technologie dans Négawatt, et je dirais même que c'est pas ça l'essentiel de la technologie, puisque le scénario Négawatt, il résonne à technologie constante. C'est-à-dire qu'on prévoit pas de découverte magique d'une technologie miracle qui fait faire des gains énormes. Donc il y a un énorme volet comportemental et puis organisation de société. Là, on n'a pas toutes les réponses. On a des exemples. Le scénario Négawatt se base beaucoup sur des exemples qu'on voit dans différents pays.
Vous allez voir un petit peu ce qui se fait ailleurs et ce qui marche ailleurs.
Oui, on remonte par nos habitudes de gens. C'est quand même beaucoup des gens du terrain, des bureaux d'études, des associations, des experts de différents réseaux, des choses qui marchent. Donc, on se dit, il faut arriver à généraliser les choses qui marchent. Quoi, hein. Donc, là-dessus, il n'y a pas forcément de solution toute faite. Il y a beaucoup à inventer. Après, on compte pas mal sur les collectivités, les territoires en général, pour s'emparer des idées du scénario Négawatt et puis essayer de l'appliquer concrètement, localement. Quoi.
C'est un des points forts du scénario, effectivement, rendre le pouvoir au territoire. Hein. Qu'est-ce que ça signifie pour Négawatt, hein, rendre le pouvoir au territoire,
hein. Négawatt considère que la tendance lourde sur l'énergie, c'est d'arrêter l'aspect production descendante centralisée. On va petit à petit quitter une production d'énergie très très centralisée pour permettre de produire sur le lieu de consommation par les énergies renouvelables diffuses, et cette logique là faut qu'on la retrouve au-delà de l'énergie. On va être de plus en plus dans des systèmes où on va demander aux territoires de gérer leur approvisionnement et leur consommation en énergie au niveau local. Donc ça peut vouloir dire pour une ville de se réapproprier ses moyens de production d'électricité ou de chaleur, de mettre en place des réseaux de chaleur par exemple. Et on est convaincu que c'est comme ça qu'on va poser à la fois, en même temps, la question du besoin d'énergie et de la façon de le produire. C'est-à-dire que tant qu'on s'occupe pas de la production, on a tendance à penser que oui, ça va arriver tout seul. Quoi, hein. Il y a un tuyau, soit un tuyau électrique, un tuyau d'eau chaude, un tuyau de n'importe quoi, et puis c'est magique, ça arrive. Quoi. Ça arrive de Russie, ça arrive du Moyen-Orient, ça arrive de la centrale nucléaire du coin, mais ça arrive, et on se pose jamais la question.
C'est très abstrait, du coup. Ouais.
Et voilà. Et en fait, ça met une séparation entre le producteur et le consommateur. Le consommateur n'est pas responsabilisé dans la production et ça le déresponsabilise aussi en partie dans sa consommation. Alors, ce qu'on constate concrètement, c'est que les gens qui ont un toit photovoltaïque sur leur maison, ils apprivoisent les notions de production d'énergie. Ils se mettent à se dire, tiens, là, j'ai mis 20 mètres carrés de solaire sur mon toit. Avec ça, j'arrive à subvenir...
Ça donne peut-être des échelles aussi. Ça permet de dire, ben voilà, j'ai produit ça, mais attention, j'ai consommé ça.
J'arrive à faire, je sais pas, mettons, j'arrive à faire les 2/3 de ma consommation électrique. J'ai le choix entre remettre 10 000 euros dans mon toit pour faire le dernier tiers ou changer mon frigo, changer mes lampes, faire un peu attention à ma consommation d'électricité. Et pour beaucoup moins cher, je vais arriver à devenir... autosuffisant, enfin pas forcément en se déconnectant du réseau, mais en tout cas je vais produire autant que ce que je consomme. Donc le fait de produire amène aussi à beaucoup travailler sur sa consommation. Enfin en tout cas c'est une des choses qu'on constate à l'échelle individuelle puis à l'échelle de la collectivité.
Alors si on commence à balayer peut-être sur d'autres secteurs, le scénario négawatt s'appuie donc sur, on l'a dit, une réduction des consommations en énergie primaire de 65%, et une grosse partie qui est mise en avant dans le scénario, c'est le domaine du bâtiment, où donc il y aura d'importants chantiers à mener.
Oui, alors le bâtiment, c'est effectivement un point dur. C'est une très grosse partie de notre consommation nationale. Hein, c'est à peu près 40% de la consommation nationale, avec le poste résidentiel qui est le premier poste, hein, donc nos logements, et puis le tertiaire qui fait l'autre partie. Donc là, on a quand même engranger des progrès normatifs ou technologiques importants ces dernières années avec la nouvelle réglementation thermique. On voit arriver les bâtiments basse consommation, les bâtiments à basse énergie, voire les bâtiments énergie positive. Hein, donc on sait faire du bâtiment neuf très performant.
Le problème, c'est le parc existant.
Le problème, c'est l'existant. Voilà. Alors même sur le neuf, on a encore des petits soucis de rodage, on va dire, mais ça va venir dans les prochaines années. Le vrai gros défi, c'est l'existant, et notamment l'existant d'après-guerre, hein, l'existant d'après 48, qui est le plus consommateur. Donc là, et d'avant 75, avant la première réglementation thermique. Donc là, il y a une sorte de série de bâtiments prioritaires qu'il faut qu'on arrive à rénover intégralement au niveau énergétique, donc à isoler en refaisant l'enveloppe. Donc ça peut passer par une isolation par l'extérieur, un changement des vitrages, un changement de la ventilation, une reprise des systèmes de chauffage. C'est des travaux assez lourds, et enfin très lourds même, on va dire. Et donc dans le scénario négawatt, ce qu'on prévoit, c'est de rendre obligatoires ces rénovations-là et de mettre en place des dispositifs économiques et financiers qui permettent d'aider les particuliers ou les propriétaires, quels qu'ils soient, qu'ils soient publics, privés, etc., à mettre en place ce plan de rénovation.
Parce que l'idée sur un parc bâti comme ça, c'est c'est peut-être de faire... quitte à le faire, bien le faire, c'est ça, plutôt que de... pour pas tuer le gisement, en fait.
Oui, alors, ne pas tuer le gisement, c'est un des grands concepts négawatt aussi. Enfin, c'est le concept du bâtiment, on va dire, hein, pour faire simple. C'est-à-dire que on est devant un défi de diviser par 4 nos consommations, enfin nos émissions, jusqu'à 2050, enfin d'ici 2050, et on peut avoir tendance à se précipiter, à se dire, par exemple, je rénove le plus de logements possible, un petit peu, parce que comme ça, je répartis les gains sur toute la population. Hein, plutôt que de dire je fais à fond certains secteurs, on va répartir les gains. Et le problème, c'est que quand on fait les choses à moitié, la deuxième moitié devient très peu rentable à aller chercher. Donc si vous rénovez votre logement, que vous refaites l'isolation aujourd'hui et que vous mettez 5 cm d'isolant dans les murs, le propriétaire suivant, quand il reprendra le logement dans 15 ans, il va peut-être pas s'amuser à casser tout pour remettre 5 cm de plus. Ça coûte marginalement plus cher de mettre les 10 cm tout de suite ou les 15 cm tout de suite, et c'est des travaux qu'on n'aura pas besoin de reprendre. Donc une des difficultés de cette rénovation niveau bâtiment basse consommation, c'est de faire les choses de façon qui soit BBC compatible, on dit, donc bâtiment basse conso compatible, c'est-à-dire pas forcément tout faire d'un coup. Parce que le montant financier est quand même important, on est sur des ordres de grandeur de 20 000 euros par logement, donc faut pouvoir les sortir, s'endetter à ce niveau-là éventuellement. Mais par contre, on peut dire, cette fois-ci je fais l'isolation, dans 5 ans je fais les fenêtres, et dans 10 ans je change la chaudière. Et il faut qu'à chaque fois on aille à un niveau de performance qui soit compatible avec l'objectif final.
Et alors sur quel type de... On va pas pouvoir diluer sur tous les bâtiments d'un coup, il va falloir commencer par certaines tranches de bâtiments. Par où on commence, par qui on commence, comment hiérarchiser
les travaux.
Donc là, ce que propose Negawatt, c'est de commencer par les bâtiments qui datent d'avant la première réglementation thermique, hein, d'avant 75, en disant c'est ceux-là les prioritaires. Et ensuite, probablement, on va être amené à intégrer des critères sociaux aussi, c'est-à-dire se dire comment on a des plans spécifiques sur les ménages les plus menacés par la précarité énergétique. Parce que quelle que soit la vitesse où on va démarrer ce scénario Negawatt, on va avoir à faire face à l'augmentation des coûts de l'énergie. Et donc, on risque d'avoir une proportion croissante de gens qui sont touchés par la précarité énergétique. C'est ceux-là qui ont le plus de mal à investir, parce qu'ils n'auront pas accès à l'emprunt concrètement, enfin, quand ils iront voir leur banquier, sauf si le dispositif de prêt bancaire est sécurisé.
Ou parce qu'ils sont locataires et que
ou
du
parce
coup
qu'ils sont
ils payent que les charges, effectivement. Si,
Donc là, on peut imposer aux propriétaires bailleurs de rénover leur logement, du moment qu'ils ont des ressources et qu'ils y trouvent une rentabilité à un certain moment. Et c'est ces modèles économiques qui sont un petit peu fins à construire. Donc il va falloir mettre en place, par exemple, dans une copropriété, des dispositifs de prêt qui ne sont pas liés au ménage, mais qui sont liés à la copropriété, pour qu'on puisse avoir des changements d'habitants dans la copropriété sans que ce soit trop compliqué pour déclencher les travaux. Donc il y a quand même pas mal d'ingénierie financière à faire derrière ces dispositifs-là, mais on a déjà pas mal de pistes, un certain nombre de collectivités qui l'ont lancé.
Après, dans d'autres domaines, donc le transport, on en a un petit peu parlé. On parlait, par exemple, du modèle de la ville. Donc, c'est vrai qu'on parle de, on produit, on consomme ou on produit. Donc, ça, c'est pour l'énergie. Ça peut être aussi pour l'agriculture. C'est un domaine aussi que vous avez étudié.
Oui, alors l'agriculture, il y a un gros changement par rapport au scénario précédent. Donc là, il y a un travail qui a été fait de façon assez fine sur la façon dont on pouvait renforcer l'autosuffisance alimentaire de la France pour limiter des imports-exports, hein, et puis avoir un régime alimentaire qui nous permette de libérer des surfaces agricoles pour d'autres usages, notamment la production d'énergie, la production de matériaux. Donc là, dans le scénario actuel, il y a ça amène à une baisse importante de la consommation de viande rouge, hein, c'est souvent ce qu'on met en avant dans le scénario. Donc il va falloir manger moins de steak tartare et moins de vaches, on va dire, en gros, moins de cochons aussi, et il y a aussi une réduction qui est moins importante des consommations de sucre. Donc en fait le régime alimentaire est calé sur ce qui est recommandé par les nutritionnistes, et on évite l'excès en protéines, l'excès en sucre rapide qu'on a actuellement dans notre société. Donc c'est facile à dire, après ça veut dire un gros travail culturel, on a 40 ans pour le faire, hein, mais c'est quand même un gros travail culturel, tant du côté des agriculteurs qui sont quand même pas mal secoués par ce que ce scénario amène, que du côté des consommateurs qui vont devoir changer un petit peu leur régime alimentaire. Donc l'idée, c'est d'aller vers un régime qui soit pas forcément végétarien, mais qui en tout cas soit plus riche en protéines végétales, moins riche en protéines animales, plus local, beaucoup plus local, évidemment plus de saison. Et tout ça redessine quand même beaucoup l'agriculture. Ce qui est important aussi dans le modèle agricole, c'est qu'on est sur un modèle très bio, très bio et très très circuit court, mais avec beaucoup moins d'intrants, que ce soit des pesticides ou surtout des engrais engrais artificiels, qui sont un très très gros poste d'émission de gaz à effet de serre. Donc on a une très forte réduction des intrants, et cette très forte réduction des intrants et la réduction du bétail permet de réduire, enfin de diviser par deux les émissions du secteur agricole, ce qui est à ma connaissance le scénario le plus ambitieux à l'heure actuelle en France. Ça veut dire des gros changements culturels, mais bon, c'est pas forcément plus difficile à vivre que d'autres choses. Enfin, je pense qu'on va arriver assez vite à développer des modèles d'alimentation qui sont tout à fait sympathiques là-dessus. On en a déjà plein. Enfin, je veux dire, il y a déjà plein de restaurants sur Lyon qui proposent ce qu'il y a dans le scénario Negawatt. Donc c'est pas une révolution dans l'absolu. C'est un changement de pratique alimentaire pour pas mal de Français. Et peut-être une autre chose à dire sur le volet agricole, c'est que ça va redessiner les paysages agricoles, puisqu'on va être beaucoup plus dans de la polyculture.
Sur plus petites surfaces, peut-être.
Les surfaces vont probablement diminuer un peu, mais on va être surtout sur des multicultures, c'est-à-dire qu'on n'aura plus des plaines de grandes céréales comme on a dans la Beauce. On va être sur des systèmes où on va avoir de l'agroforesterie, c'est-à-dire qu'il va y avoir beaucoup plus de haies et même des arbres de grande taille dans les champs. Et puis il va y avoir des cultures mixtes, c'est-à-dire qu'on va enchaîner les différents types de céréales, et on va mélanger aussi des produits, des céréales dans la même récolte. On va avoir plusieurs céréales dans la même récolte. Et ça, ça permet d'optimiser les rendements et d'aller vers des systèmes qui sont un peu plus naturels dans la façon.
Et pour vous travaillez aussi sur les économies d'eau, du coup, ou c'est une conséquence
Oui, c'est plutôt une conséquence, ouais. Ouais, c'est plutôt une conséquence. Mais c'est vrai que bon, il y a aussi des questions d'adaptation au changement climatique derrière qui pourront être intégrées et qui a priori seront plus bénéfiques dans ce scénario-là que dans des scénarios plus intensifs.
Et les biocarburants, plus qu'on...
Alors ça, c'est un chouette sujet aussi. Donc on a encore des agrocarburants dans le modèle négawatt. On a plus d'agrocarburants première génération, c'est-à-dire qu'on va plus faire du blé pour distiller des grains de blé. Par contre, on a du biogaz de façon très importante, qui va être du biogaz issu de déchets agricoles ou de bois ou d'herbes.
On utilise ce qui était des déchets et on en reproduit.
Voilà. L'idée, c'est d'utiliser des matières premières secondaires, pour pas dire déchets, qu'on va valoriser sous forme de biogaz. Donc le changement dans les carburants en lien avec l'agriculture, c'est qu'on va avoir un parc dans ce scénario de véhicules au gaz qui est très très important par rapport à ce qu'on a aujourd'hui. En fait, il faut, dans tous les scénarios post-carbone, il faut arrêter de chauffer les bâtiments aux combustibles fossiles, y compris au gaz, et il faut arrêter de rouler au pétrole. Donc une fois qu'on a dit ça, il faut trouver des solutions, mais c'est quand même deux points clés. Tant qu'on dit je roule au pétrole, on fait pas la division par quatre des émissions de gaz à effet de serre. Et tant qu'on dit je me chauffe avec des combustibles fossiles, ça passe pas non plus. Donc voilà, la voiture à pétrole va devenir marginale. Il y en aura encore un petit peu. On a un tout petit peu de pétrole et un tout petit peu de gaz fossile dans le scénario en 2050, mais c'est amené à reculer fortement. Donc à quoi roulent les voitures? Les autres modes de transport vont rouler à un mix qui sera biogaz et électricité renouvelable, pour faire simple.
Donc dans Négawatt, il y a encore des voitures et on va pas tous rouler en vélo en 2050, c'est ça?
Non, il y a encore pas mal de voitures. Alors c'est plus tout à fait les mêmes voitures. Hein. On va avoir une différenciation des voitures, c'est-à-dire qu'on va avoir encore des voitures de route, mais on va voir se généraliser ce qu'on voit déjà aujourd'hui en ville, c'est-à-dire des sortes de voiturettes. Plus petites, plus légères, qui vont beaucoup moins vite et qui vont pouvoir fonctionner en tout électrique, par exemple, pour utiliser de la production d'électricité renouvelable. Donc on va avoir une différenciation du parc de véhicules. Alors ce sera peut-être du véhicule en autopartage, pour qu'on n'ait pas à avoir tous plusieurs voitures selon l'usage.
Une voiture garée qu'on n'utilise pas.
Mais voilà, il y aura des petites voitures, donc notamment dans des très grosses villes où on a des gros problèmes de qualité de l'air. Si on met en place les péages urbains, comme on est déjà en train d'y réfléchir dans la plupart des grandes villes en France, ça voudrait dire qu'il y aurait des véhicules électriques, par exemple, en centre-ville.
On va faire une petite pause musicale.
L'Ouest grandissait plus tôt chaque jour. Le champ froissé des maïs couvrait en vagues mourantes d'autres chants, d'autres rumeurs, une autre voix, la fête des hommes en moisson mécanisée envahissait le soir jusqu'à la maison de brume blanche.
Donc
va reprendre. On va parler un petit peu des moyens de produire, des différentes méthodes pour produire cette énergie. Donc on entend beaucoup parler, donc voilà, le photovoltaïque, l'éolien est assez décrié, le photovoltaïque aussi parce que la nuit il n'y a pas de soleil, donc est-ce que vous avez trouvé des solutions pour ça?
Oui, alors en 2050, la première source d'énergie, c'est la biomasse. Donc la biomasse, ça va être le bois de chauffage, hein, que ce soit du bois automatique ou du bois en bûche, et puis toutes les autres formes de biomasse, notamment le biogaz. Donc ça, c'est pas une source intermittente, déjà pour commencer, c'est-à-dire que quand vous avez votre stock de bois, vous l'allumez quand vous voulez, vous l'arrêtez quand vous voulez. Ce sera essentiellement pour le chauffage, mais ça peut servir aussi dans des usines en cogénération, c'est-à-dire qu'ils font à la fois du chauffage et de l'électricité. Ensuite, la deuxième production, c'est l'éolien. Donc avec un éolien réparti sur l'ensemble de la France, avec de l'éolien offshore, donc en mer, et puis de l'éolien terrestre. On vient ensuite sur le biogaz, photovoltaïque, hydraulique, géothermie, biocarburant et solaire thermique. Et puis ensuite, on a les choses, les déchets urbains et pour finir, les énergies marines. Donc ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a toutes ces énergies qui vont se mélanger en simultané. On va avoir des énergies qui sont stockables, comme l'hydraulique et l'hydraulique, la biomasse, le biogaz, et puis des énergies qu'on peut pas stocker ou qu'on peut stocker, mais dont on peut pas décider le moment de production, c'est-à-dire le solaire, l'éolien notamment, et puis l'hydraulique au fil de l'eau. Alors là, il y a eu une grosse innovation aussi dans le scénario Négawatt nouvelle version, c'est dans les moyens de stockage. Donc en plus des barrages de montagne et de différentes autres technologies, on a introduit un concept qui s'appelle la méthanation. La méthanation, c'est une réaction chimique assez classique qui consiste à on prend des molécules d'eau, hein, on prend de l'eau, avec l'électricité qu'on produit en instantané, on casse ces molécules d'eau et on va en faire de l'hydrogène qu'on retransforme en gaz naturel derrière. Donc en fait, on transforme de l'électricité en gaz naturel, enfin en biogaz, on va dire, en l'occurrence, puisque c'est du gaz d'origine renouvelable.
Et après, ce gaz, on peut l'utiliser.
Et ce gaz, on l'injecte sur le réseau de gaz. Donc en fait, l'électricité se stocke sur le réseau de gaz, même si c'est un petit peu paradoxal. Donc ça, c'est un truc qui commence à rentrer dans la tête de pas mal de monde. On a les gaziers, la GRDF, qui est à fond sur cette technologie-là, qui voit évidemment un intérêt stratégique majeur pour les prochaines décennies. C'est quelque chose d'extrêmement intéressant de pouvoir en fait combiner le réseau électrique et le réseau gaz, puisqu'il y a des très grosses capacités de stockage sur le réseau gaz. Alors évidemment, transformer de l'électricité en gaz, ça coûte cher en termes de perte énergétique, on perd 40% de l'énergie au passage, donc c'est une solution qui viendra en complément des autres solutions de stockage qui ont un meilleur rendement. Mais il y a quand même un grand nombre de possibilités, et puis c'est pareil, là on a un certain nombre de pays plus en avance que nous qui sont déjà en train d'expérimenter des réseaux 100% énergie renouvelable, et qui travaille de façon très, très pointue sur la question de la gestion de l'intermittence. Alors le scénario Négawatt 2050, il est aussi calculé de deux façons, c'est-à-dire qu'on a un calcul en consommation d'énergie annuelle et un calcul en puissance horaire, c'est-à-dire que de aujourd'hui jusqu'à 2050, la puissance instantanée consommée et produite est calculée heure par heure dans le scénario et elle est ajustée en permanence.
Donc en particulier pour pouvoir subvenir aux pointes l'hiver, par exemple.
Voilà, pour subvenir aux pointes de... Bon, on a moins de pointes de chauffage électrique, évidemment, au fur et à mesure qu'on rénove le parc. Mais on a prévu la gestion de l'intermittence. Donc ça passe dans le scénario actuel avec des moyens de stockage qui sont évidemment renforcés.
Donc là, on est sur un scénario de production électrique qui est quasiment 100% renouvelable, ou même 100% renouvelable.
Oui, oui, on a un tout petit peu.
Ce qui implique donc une sortie du nucléaire.
Oui, alors en fait la sortie du nucléaire, le nucléaire est reconnu par l'association Négawatt comme une solution non durable, c'est-à-dire qu'il y a suffisamment de problèmes annexes, notamment la question du risque, hein, que ce soit risque d'accident, risque terroriste, la gestion des déchets, et puis ensuite des questions un peu secondaires, mais secondaires, ça se discute de démocratie, puisque le nucléaire est quand même une énergie qui amène un certain centralisme d'État, la question question aussi de la façon dont on va gérer les consommations. Donc tout ça nous amène à dire on peut sortir du nucléaire, donc on sort du nucléaire. Et donc la sortie du nucléaire se fait en septembre 2033 selon le scénario actuel. Il y a un débat sur août ou septembre 2033 en ce moment, mais donc là, en gros elle est calée sur la durée de vie des centrales en fonction de leur date de mise en service. Donc suivant la date de mise en service des centrales, on les arrête entre 30 et 40 ans de fonctionnement pour ne pas avoir à les rénover de façon très lourde. Il faut savoir que le fait de maintenir le parc nucléaire en service va coûter des gros investissements puisqu'il va falloir faire des révisions très lourdes aussi.
Justement, puisqu'on parle de ces questions d'investissement, aujourd'hui on entend beaucoup parler dans les médias, oui, la sortie du nucléaire ça coûtera 300 milliards, non 500, non 750, c'est la surenchère. Quelle réponse à Negawatt face à ces questions effectivement économiques? Comment effectivement financer cette transition énergétique, que ce soit dans les domaines du bâtiment ou même dans le domaine de la production ou dans le domaine des transports? Quels sont les modèles économique ou quel est le niveau d'avancement de la réflexion sur cette question?
Alors, bon, il y a eu pas mal de choses un peu caricaturales qui sont sorties là dans la préparation de la présidentielle et les débats qu'on a eu sur l'énergie. Donc effectivement, sortir du nucléaire, ça c'est des centaines de milliards d'investissements, mais relancer le nucléaire, c'est aussi des centaines de milliards d'investissements. Une centrale nucléaire, enfin, l'EPR de Flamanville, ouais, il est en train de dépasser les 6 milliards d'euros, et il nous en faut quand même un certain nombre, donc on va avoir quand même un volume d'investissement très lourd pour rester dans le nucléaire. Donc la question, c'est pas combien il va falloir investir, mais c'est combien ça coûte en plus d'investir dans une solution par rapport à une autre solution. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se contenter de ne rien faire. Ce n'est pas possible. Il faut réinvestir dans les réseaux énergétiques. Et là, tous les spécialistes de l'énergie disent qu'on est devant des très gros investissements en France, mais aussi dans le reste du monde. On est dans la fin d'un cycle et il faut réinvestir pour le prochain cycle. Donc nous, on voit plus ça comme une opportunité, c'est-à-dire que c'est maintenant qu'il faut faire un certain nombre de choix. On peut faire une solution mi-fig, mi-raisin, de relancer quelques tranches nucléaires pour dire j'en sors pas, et puis de faire un peu d'éolien, un peu de solaire, etc. Il y a un certain nombre de gens qui disent il faut pas se fermer des technologies, mais en faisant ce choix-là, on se prive aussi d'économies d'échelle. Donc, voilà, il y a des pour et des contre là-dessus. Ce qu'il faut voir dans le scénario Negawatt, c'est qu'on a cherché à aller vers le vrai prix de l'énergie, qui est quand même une grosse question aussi dans tous les scénarios énergétiques. C'est-à-dire qu'on intègre le coût de la pollution, et le coût de la pollution pour nous c'est les gaz à effet de serre, donc principalement le gaz carbonique, la pollution de l'air avec les particules, donc même les renouvelables vont être taxés, le bois va être taxé sur ces particules fines, et aussi les pollutions, donc qualité de l'air, et puis les pollutions radioactives, donc la production des déchets radioactifs. Donc ce qui est prévu dans les mesures négawatts qui découlent du scénario, c'est la mise en place d'une taxe sur l'énergie primaire qui prend en compte toutes les pollutions liées à la production d'énergie. Alors ça, c'est une taxe qui s'applique sur tous les consommateurs, sur tous les types de consommation, et qui crée une recette très importante pour financer à la fois les économies d'énergie et les énergies renouvelables. Qui donne aussi un avantage compétitif aux énergies renouvelables, mais qui permet de maintenir le tarif d'achat, par exemple, de l'électricité à travers la CSPE, etc. Donc on a différents outils économiques et financiers, de la taxation, et puis ensuite le pendant en face qui va être un certain nombre de subventions. Une autre mesure très importante du scénario Negawatt, c'est qu'on va vers des prix progressifs de l'énergie. C'est-à-dire que le petit consommateur payera moins cher ses 3000 kWh que le moyen consommateur qui va consommer 6000 kWh.
Considérant que la première tranche, en fait,
la première tranche est moins chère.
On en a besoin.
En fait, on reconnaît qu'il y a des kWh plus utiles que d'autres. Hein. C'est ça l'idée. C'est-à-dire qu'il y a des kWh vitaux. On a tous besoin de se chauffer, de s'éclairer et même de se déplacer. Il ne faut pas croire qu'on peut se priver complètement de déplacement. Enfin, c'est quelque chose de très important pour la plupart des gens dans leur vie sociale, pour avoir un emploi, pour rencontrer des gens, etc. Donc il y a un certain nombre de kilowattheures qui vont être moins chers que d'autres. Et ensuite, on a une progressivité du prix qui vise à décourager le gaspillage.
Les emplois, peut-être?
Alors sur les emplois, ça c'est un autre beau sujet. Donc on va vers un scénario qui détruit des emplois. Il faut le dire franchement, dans la filière automobile, dans la filière nucléaire et dans la filière combustible fossile. Donc on détruit à peu près 250 000 emplois dans ces filières. pas 1 million comme j'ai entendu récemment. Enfin, bientôt on va avoir toute la population française qui travaille dans le nucléaire, c'est assez marrant. Mais bon, voilà, on détruit des centaines de milliers d'emplois. Donc ça veut dire que c'est pas de la rigolade et que ce changement-là, il va se faire avec la nécessité d'une transition dans le temps et puis d'une reconversion très forte d'un certain nombre de professionnels de l'énergie ou des transports. Maintenant, on en crée beaucoup dans plein d'autres filières et au final, on a un solde très nettement positif puisque l'ancienne version du scénario était estimé à presque 700 000 emplois créés en solde net, donc en tenant compte des emplois détruits. Alors pourquoi on en crée autant ? Parce qu'on remplace des filières qui sont assez capitalistiques, donc des filières comme les usines automobiles ou le nucléaire notamment, qui fait peu d'emplois par kilowattheure produit, par des filières qui sont moins capitalistiques et notamment les économies d'énergie qui va être un des plus gros volets. Enfin, en gros, c'est un tiers énergie renouvelable, un tiers économie d'énergie et puis un tiers transport en commun qui vont aussi créer beaucoup d'emplois. Donc il y a des emplois à la fois dans les usines, mais c'est pas forcément là qu'il y aura le plus d'emplois, hein, dans les usines de production de je sais pas quoi, de pales éoliennes ou de panneaux photovoltaïques, mais surtout dans l'installation.
Dans l'installation,
il y a énormément d'emplois, la maintenance, et évidemment, il y a tous les emplois dans la filière bâtiment, donc isoler les 30 millions de logements de la France, ça va nous prendre un certain temps et ça crée un certain nombre d'emplois aussi. Donc au final, le scénario, il est très positif en emploi. On n'a pas encore le détail du bilan sur l'agricole, mais il y a des chances que ce soit aussi positif sur le volet agricole.
Donc on voit qu'effectivement, c'est un scénario assez global qui impacte sur le social, qui impacte parce que quand on dit effectivement reconversion, ça veut dire formation, ça veut dire il y a des secteurs professionnels. Est-ce que là, déjà, vous travaillez avec, je sais pas, des universités, avec des artisans, avec comment ça se passe là-dessus, parce qu'il y a des métiers effectivement. Si on nous dit maintenant il faut rénover ces bâtiments, est-ce que déjà on a la connaissance? Ça peut être des nouvelles techniques, ça peut être
Oui, alors sur la formation, donc on a créé l'Institut Négawatt, qui est un organisme très lié à l'association et qui dont une des vocations majeures c'est de faire de la formation. Donc il fait des formations sur les différents domaines liés au scénario Négawatt, hein, que ce soit le bâtiment, mais aussi l'urbanisme, les plans climat, la culture énergie générale, etc. Et pour l'instant, la formation qui rencontre le plus de succès, c'est la formation d'Olivier Sidler sur la rénovation facteur 4 des bâtiments. Et il en est à plusieurs milliers de personnes formées, donc il est en train de finir un tour de France là de formation des différents intervenants de la filière bâtiment. Bon, ça c'est un exemple, mais ça va se propager dans d'autres domaines. Et puis il y a énormément d'actions qui sont déjà en cours dans les différents volets. Hein. On peut pas dire que l'association Négawatt elle-même soit extrêmement active aujourd'hui par son salarié, puisqu'il y a encore qu'un salarié. Mais par contre, les adhérents de l'association Négawatt, le conseil d'administration, mais aussi le reste des adhérents, sont pour la plupart actifs dans différents aspects de la formation professionnelle sur l'énergie.
D'accord.
Et évidemment, il va falloir généraliser ça aux formations initiales et continues dans beaucoup de domaines.
Est-ce qu'on peut peut-être conclure sur, il nous reste quelques minutes, sur les visées du scénario Négawatt à l'aube de l'élection présidentielle? Est-ce que vous allez commencer à vous approcher des candidats pour essayer d'amener effectivement ces questions de l'énergie au cœur du débat et en essayant d'apporter des éléments un peu plus concrets sur cette question, des éléments un peu plus chiffrés? Quelle va être vos démarches dans cette campagne?
Alors, la première démarche, c'était d'actualiser le scénario un petit peu avant la présidentielle pour que les partis intéressés aient le temps de l'intégrer dans leur vision et dans leur programme. La deuxième démarche, ça a été de rencontrer un certain nombre de partis, enfin tous ceux qui l'ont souhaité. Et aujourd'hui, c'est la plupart des partis qui ont été rencontrés pendant les universités d'été ou d'automne de 2011. Donc, il y a un grand nombre des compagnons Négawatt qui sont allés faire des interventions dans les universités d'été de différents partis. Et puis ensuite, il y a des échanges plus informels sur les contenus programmatiques avec un certain nombre de partis aussi. Donc, que ce soit pour corriger des choses un peu trop manifestement fausses ou que ce soit des échanges d'idées. La prochaine étape, là, c'est la sortie du manifeste Négawatt qui va sortir pour les Assises de l'énergie fin janvier 2012, pardon. Donc, deux mois avant la présidentielle, il restera juste le temps de le lire pour les candidats. Mais je pense qu'il y a une actualité énergie quand même assez forte là ces temps-ci, et je pense que le scénario vient démontrer que si on veut se lancer dans l'aventure d'un modèle énergétique durable, on a des solutions opérationnelles aujourd'hui.
Eh ben merci, c'était une bonne conclusion.